Bonjour à tous, ça me fait plaisir, je suis dans la joie d'être avec vous ce matin. Vraiment, c'est toujours une occasion spéciale d'être parmi mes frères et sœurs de Toulouse que je vois si rarement, mais on va dire que c'est plus intense. Et ce matin, aussi en rapport avec Pentecôte, j'ai envie de vous parler de l'œuvre du Saint-Esprit. Et pour ça, je vais vous parler de l'engagement. S'engager, c'est s'associer à l'œuvre de Dieu. Et aujourd'hui, on va voir un texte en acte 8 sur Philippe et l'eunuque. Lorsqu'on parle de s'engager, ça fait peur. Ça fait peur parce que dans notre société, engager implique un risque, implique le don de soi, implique d'être actif. Et c'est vrai qu'on est de plus en plus passif. Entre tous les événements qu'il y a autour de nous, tous les spectacles. Et on préfère recevoir que donner de nous-mêmes. On préfère recevoir parce qu'on estime qu'on a des besoins essentiels plutôt que donner notre essentiel pour accomplir de l'œuvre autour de nous. Alors, quelle est la différence entre le monde et nous? Je vais vous donner un exemple, le mien, pas parce que je suis meilleur, mais bien parce que je suis bien faible et que je me connais. Alors c'était il y a quelques années, il y a 3 ans, à Paris, on avait un comité responsable des groupes de jeunes de l'AECM et on préparait une journée interjeunes à Paris. Et il advena la question de qui allait enseigner. Alors on se regarda, on commença à trouver des hypothèses, on n'arrivait pas à trouver quelqu'un. C'est vrai qu'on avait déjà épluché, on avait déjà tiré les fonds tiroir. Et l'esprit me poussa fortement à m'impliquer, à me dire, j'ai envie de prêcher. Mais je me suis dit, mais Daniel, t'es fou, qu'est-ce que tu racontes là? Je me suis tu, j'ai gardé ça pour moi. Et j'ai commencé à dire, ben, on n'a qu'à regarder dans chaque église, qu'est-ce qu'on peut faire? Chacun les uns après les autres, ah non, mon pasteur, il va être pris là, 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 là. Hop, on a fait le tour, impossible. Et moi, l'esprit me poussait, et je continuais à me taire. Et c'est arrivé à Tim Husser, qui était un peu le coordinateur, qui d'un coup, un peu, pas dépité, mais qui me regarde et qui fait « À part Daniel, je vois pas trop. » Oh, la volonté de Dieu était claire. C'est beau. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je fais « Mais ça va pas. » Je dis « Bon, écoute, dans le dernier des recours, vraiment au dernier moment, s'il y a vraiment personne, je m'en occuperai. » Alors qu'est-ce que j'ai fait? Dès que la réunion était terminée, quelques jours après, je suis allé voir mon pasteur, Jean-Christophe. Écoute, on a cette réunion des jeunes, on a vraiment besoin de quelqu'un, on a besoin d'un enseignement solide. Est-ce que tu voudrais apporter la parole? Pasteur qui me regarde. Daniel, je crois que tu es mieux placé que moi pour apporter la parole. Je n'ai plus que me soumettre. C'est en toute humilité que j'ai présenté la parole ce jour-là devant les jeunes. Et j'ai une autre anecdote parce que c'était aussi fort. La semaine dernière, j'ai prêché à Grenoble dans les mêmes circonstances. L'esprit qui, suite à un groupement de responsables, me poussait à m'engager. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé aux toilettes. Je suis allé aux toilettes, j'ai prié aux toilettes. Et pendant que j'étais aux toilettes, ils ont voté pour moi à l'unanimité. Je suis revenu. Et il y en a un qui me dit en rigolant, « Daniel, on a décidé, c'est toi qui prêches. » Je regarde, je fais, « Je suis prêt, mon frère. » Comment ne pas se soumettre à la volonté de Dieu? Pourquoi est-ce que c'est si dur de s'engager? Pourquoi est-ce que c'est si dur de s'engager dans l'œuvre de Dieu? Quelles sont nos réelles motivations? Et à travers ce texte, j'aimerais vous montrer 3 étapes où Dieu est à l'origine. Dieu est à l'origine de toute chose. Il est d'abord à l'origine par son esprit. Dieu est à l'œuvre autour de nous. Partout où nous sommes, Dieu est à l'œuvre autour de nous. Et qu'est-ce que Dieu a répondu à Job qui avait vécu une période douloureuse, qui était resté intègre malgré tout? Il répond à Job, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence ?» Saint-Terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Dieu est à l'œuvre autour de nous, que nous y participions ou pas, il fait son œuvre. Il accomplit son plan en son temps, suivant sa volonté. Voilà la première étape dans laquelle Dieu est à l'origine. Deuxième étape, Dieu entretient une relation d'amour avec nous. Une vraie relation, réelle. Dieu est à l'origine. Il dit, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Troisième étape, Dieu veut que l'on s'associe à son œuvre. Il dit en Marc, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Voilà, trois étapes qu'on va retrouver dans le texte. Dieu est autour de nous, Dieu nous demande d'avoir cette relation avec lui, nous invite à cette relation avec lui, et ensuite Dieu veut nous utiliser, veut que nous nous associons à son œuvre. Et Philippe, on va voir, a répondu avec foi et action au désir, au plan de Dieu. Alors, je vous invite à tourner vos Bibles en acte 8, à partir du verset 26. Acte 8, 26. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit « Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retourner, assis sur son char. Et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendu l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la dépendra ? L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi ? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Avant d'approfondir ce passage même, on va voir le contexte. Je vous ai dit, Dieu est à l'œuvre aujourd'hui par son esprit. Et d'abord, Dieu avance autour de nous. Comme j'ai dit que nous participions ou pas, Dieu avance autour de nous. Dieu avait préparé Israël pour être lumière des nations. Israël avait cet objectif. Il a failli dans cet objectif. Et qui a remplacé, qui a pris la place d'Israël ? Jésus-Christ. Donc seul Jésus-Christ peut atteindre l'objectif d'être lumière autour de nous. Et c'est pour ça qu'il nous a renvoyé son esprit à la Pentecôte, pour que remplis de son esprit de Jésus-Christ, nous puissions aussi être lumière. Car seul Jésus-Christ peut accomplir ce qu'Israël, là où Israël a failli. Et c'est pour ça que là où est l'Esprit de Dieu, là doit être l'Église de Dieu. Où on voit l'Esprit de Dieu, on doit s'y associer et l'Église doit venir et s'associer à cette œuvre. L'exemple de Philippe est très fort parce que Philippe accomplit parfaitement ce que Jésus a annoncé avant de partir. Je vous invite à tourner vos Bibles en Actes 1, 8. Vous l'avez sur la projection, si vous préférez. C'est Jésus qui parle et qui dit « Mais vous recevrez une puissance le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » On connaît tout ce passage. C'est un ordre et une prophétie en même temps de Jésus-Christ. Et on va voir que Philippe suit chacune des étapes que Jésus a annoncées. Pourquoi ? Parce que Philippe recherche le plan de Dieu. Philippe a le cœur de Dieu. Il veut vraiment voir l'œuvre de Dieu autour de lui. D'abord, il participe, comment dire, il est rempli de l'Esprit. Chose indéniable, chose incontournable pour être utilisé par Dieu, être rempli par son Esprit. Et on le voit en Actes 6, verset 5. C'est là qu'on entend parler de Philippe pour la première fois. Donc c'est suite à un problème à régler entre les hellénistes et les juifs. Les hellénistes étaient des juifs de la diaspora, issus de la diaspora. Donc c'était des juifs qui avaient issu une partie de la culture grecque. Donc de ce fait, du fait qu'ils avaient issu, ils avaient rentré une partie de la culture grecque, ils étaient plus ou moins vus, bien vus par les juifs hébreux qui, eux, étaient depuis toujours dans cette culture juive et qui n'avaient pas laissé rentrer une autre culture. Et donc, suite à un différend, les apôtres demandent aux hellénistes de choisir des responsables d'église. Et on lit en verset 5, « Cette proposition plut à toute l'assemblée, ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'esprit saint, Philippe et encore d'autres. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. » Et au verset 4, au verset 3, on lit « Choisissez parmi vous sept hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse. » Donc ici, on a déjà le contexte de qui était Philippe. Philippe était un homme rempli de l'Esprit. Et Philippe, rapidement, participe à l'œuvre de Jésus qui a annoncé d'abord que l'on soit témoin à Jérusalem. On le voit au verset 7, chapitre 6, verset 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Et ensuite, on parle d'Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges. Philippe, qui faisait partie de la même communauté qu'Étienne, puisqu'ils étaient tous les deux hellénistes, Philippe était donc dans cette communauté qui évangélisait, qui propageait la parole dans Jérusalem. Et on voit que dès le départ, dès l'origine de l'Église, il y a un réveil spirituel, même parmi les sacrificateurs qui obéissent à la parole. Première étape que Jésus avait annoncée. Deuxième étape, suite au martyr d'Étienne. Suite au martyr d'Étienne, qu'est-ce qui se passe? Tous les hellénistes sont dispersés, on le voit. Alors, on le voit où? En Actes 8. En Actes 8, verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Là, j'y arrive pas. Prochaine étape, la Judée et la Samarie. Jésus a dit, soyez mes témoins dans Jérusalem, en Judée, Samarie et aux extrémités de la terre. Philippe, rempli de l'Esprit, était témoin à Jérusalem. Puis, suite au martyr d'Étienne, il quitta, mais continua à annoncer la parole. Il annonça la parole en Samarie. Et maintenant, on va voir ce texte où il annonce la parole à qui? Un Éthiopien. Un Éthiopien qui représente le continent africain et qui peut représenter les extrémités de la terre, puisque le royaume d'Éthiopie était un peu le dernier pays, la frontière que connaissaient les Romains. Les Romains ne connaissaient pas au-delà de l'Éthiopie. Donc on peut considérer que c'était les extrémités de la terre. Donc Philippe participe à tout. Et on peut se poser la question, est-ce qu'on est appelé à être évangéliste, à propager la parole uniquement autour de nous, ou sommes-nous appelés, comme Philippe, qui en l'espace de deux chapitres, partage la parole à Jérusalem, Judée, Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre, rempli de son esprit. Dieu va accomplir son œuvre autour de nous. Et on voit le contexte dans lequel Philippe approche l'eunuque, c'est un contexte dans lequel Dieu est en train d'accomplir sa parole. Et c'est incroyable que ça soit suite au martyre d'Étienne que Jésus accomplit sa prophétie, que Jésus, que la parole de Dieu est étendue jusqu'aux extrémités de la terre suite au martyre d'Étienne. Les plans de Dieu nous dépassent. L'œuvre de Dieu ensuite, donc on a vu que l'œuvre de Dieu avance autour de nous, maintenant on va voir que l'œuvre de Dieu, que son esprit agit dans toutes les circonstances autour de nous. Et on va voir ce cas particulier de Philippe où tout est orchestré par le Saint-Esprit. Et j'aimerais commencer par vous dire qu'il ne faut pas oublier que le salut découle de la volonté souveraine de Dieu. C'est Dieu qui va vers l'homme. Il y a deux raisons qui nous empêcheraient de venir vers Dieu. La première raison, c'est notre mort spirituelle. Nous avons le péché qui nous aveugle, qui nous empêche de voir Dieu. Une deuxième raison, c'est les forces spirituelles qui ne veulent pas qu'on s'approche de Dieu, qui mettent des obstacles pour pas qu'on s'approche de Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit en Jean 6, 44, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » La foi qui nous sauve en Christ est l'accomplissement de l'œuvre du Saint-Esprit dans notre âme qui est morte. C'est le Saint-Esprit qui nous transforme, qui fait de nous une nouvelle créature. Il ne faut pas l'oublier ça. Et Dieu approche tous les hommes par son Esprit Saint. Nous devons voir l'œuvre de Dieu chez les hommes qui sont autour de nous et s'associer à son œuvre, puisque Dieu s'adapte à chaque être vivant. Et on va voir que Dieu s'adapte à l'Éthiopien. On va commencer à rentrer dans le sujet, dans le texte, en Actes 8, 26. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit « Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » L'Esprit orchestre tout. L'Esprit place Philippe dans une position stratégique. Et sans que l'Esprit et préparer cette rencontre, la rencontre n'aurait pas eu lieu. Qu'est-ce qu'on voit en premier? On voit le choix de l'heure. Va du côté du Midi. Sur notre traduction, on pourrait dire « va vers midi ». Midi était l'heure la plus chaude dans ce genre de pays qui il fait déjà très chaud. Midi, l'heure la plus improbable à laquelle on peut croiser un voyageur. Pourtant, c'est l'heure que Dieu avait fixée. Ensuite, le lieu, chemin désert. Celui qui est désert. Je crois que Luc, en acte, s'il se permet d'accentuer sur celui qui est désert, c'est bien qu'il y avait un autre chemin qui, lui, n'était pas désert, qui devait être davantage emprunté par les voyageurs qui allaient de Jérusalem à Gaza. Pourquoi le chemin qui est désert? Encore un lieu encore plus improbable. Le personnage de Philippe, on a vu un chapitre avant, ou deux chapitres avant, non, dans le même chapitre, pardon, que Philippe dispersait suite à la persécution des pharisiens. Philippe est dispersé, il va au nord. Et Dieu l'appelle à revenir dans le sud, à revenir sur le chemin entre Jérusalem et Gaza. Pourquoi Philippe? Pourquoi pas les apôtres qui sont déjà à Jérusalem? Pourquoi pas des chrétiens qui sont déjà à côté? La Samarie est au nord. Il y a quand même, je vois pas en nombre de kilomètres, mais il y avait de longues heures, très longues heures de marche pour arriver au sud et arriver sur ce chemin qui allait entre Jérusalem et Gaza. Pourquoi Philippe? Pourquoi l'eunuque, un étranger avec une culture complètement différente? En plus, un eunuque, il faut savoir que les eunuques, on le voit après, Luc insiste en disant que c'est un Éthiopien, un eunuque, et qu'il insiste aussi que c'est un ministre de Candace et, il dit le mot « et », surintendant de toutes les richesses. Donc, par cette bivalence, on peut dire qu'il est « et eunuque » et « surintendant de toutes les richesses ». Pourquoi j'insiste? Parce que dans l'Ancien Testament, on avait l'exemple de Potiphar, qui était lui eunuque, mais qui n'était pas castré, puisqu'il était marié. Et la définition de l'eunuque, c'est être castré. Mais Potiphar était marié et de son statut de ministre, on l'appelait eunuque. Là, ici, l'Éthiopien est eunuque et surintendant. Et il venait à Jérusalem pour adorer, alors que les Juifs, dans la loi, en Deutéronome 23.1, les Juifs ne permettaient pas aux eunuques de venir adorer au temple. Ils n'avaient pas accès au temple. Donc cet homme qui est venu pour adorer Dieu a dû, peut-être par surprise, peut-être qu'il ne le savait pas, a dû être quelque part rejeté ou sorti en lui disant « tu ne peux pas, toi, accéder ». Il ne pouvait pas non plus être prosélyte juif. Il avait le statut de craignant Dieu. Mais Dieu, dans son amour, il donne aussi toute la responsabilité à l'homme. On a vu qu'il avait toute sa souveraineté par son esprit, mais l'homme a aussi sa responsabilité. Et en Jérémie 29, 13, on lit « vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur ». Et l'exemple de l'Éthiopien est un exemple magnifique du salut par grâce pour tous les hommes, sans exception. Ce n'est pas par hasard que Philippe rencontre aussi cet eunuque. L'esprit avait travaillé dans le cœur de l'eunuque. Ce qu'on lit, c'est que l'eunuque est en train de lire le passage en Ésaïe. Et c'est intéressant de lire 2-3 chapitres plus loin en Ésaïe. Si vous tournez les pages, je vais vous le lire. En Ésaïe 56, 3 à 5. Ésaïe 56, 3 à 5 parle de la place des eunuques dans les temps à venir. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « l'Éternel me séparera de son peuple » et que l'eunuque ne dise pas « voici, je suis un arbre sec » car ainsi par l'Éternel, aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance, je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom. Préférable à des fils et à des filles, je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. » Ce n'est pas par hasard que l'eunuque lisait le livre d'Ésaïe. Il y a une promesse magnifique pour les eunuques. Lui qui avait été rejeté des Juifs, il avait cette promesse. Donc on voit que le lieu, tout était orchestré par le Saint-Esprit, et l'Esprit aussi prépare le cœur de l'eunuque à travers la parole. Et là, il lit un texte qui part de l'agneau immolé. Donc on a vu que clairement, Dieu est à l'œuvre autour de nous. Historiquement, le contexte, Dieu faisait son plan en son temps, sa volonté en son temps. Et ensuite, Dieu agit aussi par son esprit dans les circonstances particulières où nous sommes. Maintenant, Dieu nous demande de nous associer à son œuvre. Dieu agit par son esprit, mais il veut nous utiliser comme instrument. Et c'est son appel, son invitation à s'associer. On va voir deux manières de s'associer, deux preuves de notre amour. La première chose, prouvons notre amour en obéissance. En obéissance, en retour, pour la gloire de Dieu, pas pour la nôtre. Simple obéissance. Si nous lisons les versets 27 et 29, voyons Philippe qui, d'une manière impressionnante, obéit illico presto à l'appel de l'Esprit. Verset 27, il se leva et partit. L'ange lui parle directement, on ne voit pas se poser de réflexion particulière, il se lève, il part, il obéit. Au verset 29, dès que l'Esprit lui parle, qu'est-ce que fait Philippe ? Il accourut et entendit. L'obéissance de Philippe est frappante. Il part dès qu'il reçoit l'ordre de Dieu. Jésus a dit en Jean 14, 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Spurgeon disait, « S'engager, c'est apporter chaque jour la preuve par ma vie d'avoir été sauvé de l'égoïsme, de l'amour du monde et de toutes sortes de mal. » Quand donc Dieu se manifeste-t-il à nous ? C'est comme nous sommes prêts à obéir. Dieu se manifeste à Philippe parce que Philippe obéit promptement. Et à partir du moment où, par amour, tu obéis à Dieu, il se révèle à toi. Et c'est beau. Parce qu'il prend plaisir à nous utiliser. Aimons notre Dieu jusqu'à rentrer dans son œuvre, jusqu'à accepter son invitation. Ne restons pas passifs. L'obéissance est juste un pas de la foi. Pour sa gloire. Pourquoi est-ce que Dieu prend plaisir à nous utiliser? D'abord, on a cet exemple de Paul où il avait une écharde dans le corps et il ne comprenait pas pourquoi il avait cette écharde. Et Dieu lui dit que dans sa faiblesse, il montre sa puissance. Dieu prend plaisir à nous utiliser parce que à travers nos faiblesses, il révèle sa gloire. Il manifeste sa toute-puissance. Et du coup, nous sommes remplis de sa gloire. Nous sommes le visage rayonnant de sa puissance. Ensuite, il prend plaisir parce que aimer Dieu, ça ne se fait pas uniquement en parole, se fait en action. Dieu, dans l'histoire d'Israël, dans l'histoire, son rapport avec l'homme, a toujours aimé l'homme en action et en vérité. Il ne fait pas que parler, sinon nous n'aurions pas le salut éternel. Il agit. Et en 1 Jean 3,18, on lit « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. » Dire qu'on aime Dieu ne suffit pas. Il faut le démontrer. Démontrer cet amour. Ensuite, obéir en discernant sa voix. Vous allez me dire « J'aimerais bien obéir par amour. J'aimerais bien obéir pour sa gloire, mais je n'arrive pas à l'entendre. Je ne le vois pas autour de moi. » Philippe, en acte 8, 26, vous allez dire qu'il a de la chance. Un ange du Seigneur s'adressant à lui, lui dit. Ce n'est pas tous les jours qu'un ange du Seigneur s'adresse à nous. Plus tard, en acte 8, 29, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. De la même manière que l'ange a parlé à Philippe, l'Esprit a parlé à Philippe. Et Philippe, dans tous les cas, a su entendre l'appel de Dieu. Parce qu'il était prêt. Philippe était rempli de l'Esprit et il connaissait la voix de son Seigneur. Comment est-ce qu'on peut te préparer? D'abord, Philippe connaissait la voix parce qu'il avait une relation intime avec Dieu. C'est évident puisqu'il était rempli de l'Esprit. Et je vais donner un exemple. Dans un centre commercial, quand vous prenez dans un centre commercial, vous avez beaucoup de monde autour de vous, vous entendez du brouhaha, vous entendez les gens qui parlent, les commerçants, voilà. Mais je peux vous assurer que si j'entends mon père se moucher à 30 mètres autour de moi, je saurai tout de suite que mon père est dans le coin. Rien qu'à la meilleure dont il se mouche, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu. De la même manière, je suis sûr et certain que si mon père commence à parler autour de moi avec une commerçante, sans que je sache qu'il soit là, je vais me retourner, je vais faire « Papa, qu'est-ce que tu fais là ?» Pourquoi ? Parce que je connais bien mon père. Je connais parfaitement sa voix. Je connais parfaitement son œuvre quand il se mouche. Et parce que je le connais, je le reconnais. De la même manière, est-ce que nous reconnaissons Dieu ? Non, nous ne le reconnaissons souvent pas parce que nous le connaissons mal. Nous passons pas assez de temps avec lui. Mon père, c'est vrai que j'ai passé toute ma vie avec lui. Passons-nous tout notre temps, le plus de temps possible avec notre Dieu. J'entendrai la voix du Seigneur si je passe du temps avec lui dans l'intimité, avec lui, avec mes frères et sœurs, avec lui dans la prière, avec lui en s'associant à son œuvre. Une deuxième chose, Philippe avait connaissance du plan de la volonté de Dieu. Il voulait s'y associer. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Philippe n'a pas commencé, ne s'est pas investi dans cette œuvre avec l'Éthiopien sans avoir connu l'œuvre de Dieu au préalable. Il avait déjà vécu beaucoup de choses avec Dieu. Il connaissait l'œuvre de Dieu et il voulait y adhérer. Souvent, on ne reconnaît pas la voix de Dieu car nous ne la reconnaissons pas parce que nous la connaissons mal. Et de la même manière, nous ne nous associons pas à l'œuvre de Dieu parce que nous connaissons mal son œuvre. L'inverse est tout aussi bon à dire. Si je n'ai jamais participé à l'œuvre de Dieu, comment est-ce que je pourrais la reconnaître quand elle arrive? Comment est-ce que je pourrais m'associer une fois qu'elle sera devant moi? Et je vais donner une anecdote que j'ai vécue à Paris suite à la campagne d'évangélisation 2005. Donc une campagne fructueuse. D'ailleurs, c'est là qu'on t'a rencontré. Non, 2005. Ouais. Alors, je reviens à Paris un mois et demi après ce moment béni, une semaine bien, bien forte d'émotions, où on voit clairement l'œuvre de l'Esprit dans l'Église, dans la communauté, tous ces gens qui se rassemblent pour prier, pour annoncer la parole de Dieu l'après-midi. Et un mois et demi après, je me retrouve à Paris. Bon, je me retrouve seul, sans cette communauté, sans ces moments où on s'encourage les uns les autres. Je cherche un logement, je n'en trouve pas. Et je suis un peu découragé, je me dis, logement. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Où est-ce que tu veux que je sois logé? Et d'un coup, je me dis, mais la volonté de Dieu première, ce n'est pas que je sois logé, c'est que sa parole soit annoncée. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette pensée en moi. Je dis, ce que Dieu attend de moi, c'est que je sois à l'œuvre. Alors, le logement, c'est secondaire. J'en faisais trop tout un plat. Et je me dis, il faut que j'annonce la parole de Dieu. Alors, je regarde autour de moi. je vois pas grand-chose. Hein. Là, je vois un banc. Et je vois quelqu'un assis sur le banc. Là, je vais m'asseoir avec lui. Et je commence à faire semblant de chercher mon logement, à regarder des numéros de téléphone. En plus, il sentait mauvais. Moi, je me suis dit, ah, celui-là, il est parfait. C'est vraiment l'œuvre de Dieu. Et à peine 30 secondes après, c'est que lui a pensé que je pensais que je puais encore plus, il est parti. Il m'a laissé seul sur le banc. Et je me suis dit, Seigneur, vraiment, je priais pour ça. J'étais en train de prier pour ça. Je voulais vraiment que Dieu m'utilise à nouveau. Je me suis dit, waouh, je ne suis plus avec mes frères et sœurs. Je ne suis plus dans cette communauté encourageante. Et ça y est, le feu, c'est parti. L'œuvre de Dieu n'est plus la même. Et je n'arrivais pas à y croire, parce que l'œuvre de Dieu se fait partout. Et je priais à ce sujet en disant, Seigneur, vraiment, utilise-moi partout, pas qu'à Toulouse, aussi à Paris. Et il y a un monsieur qui est venu s'asseoir à côté de moi. Je dis, ah, deuxième chance. Je recommence à faire semblant, je prie. Et de lui-même, il commence à m'adresser la parole. Ah, qu'est-ce que vous faites? Vous cherchez un logement? Il commence à me parler de ses problèmes. On commence à parler des problèmes. Je lui parle de comment Jésus peut résoudre ses problèmes. On parle de Dieu. On parle, on sympathise. On fait le tour du château de Vincennes. Il me donne son numéro de téléphone. Et par la suite, on n'a pas réussi à garder le contact. Enfin, quand je l'ai appelé, ça ne marchait plus son téléphone. J'étais sur le répondeur, il ne m'a jamais rappelé. Bon. Pourquoi cet exemple? Parce que j'avais vécu ces moments forts ici, et parce que j'avais vécu ces moments forts ici, que j'avais vu l'œuvre de Dieu, je connaissais l'œuvre de Dieu, et je voulais m'y associer. Et l'œuvre de Dieu se fait partout. J'étais disponible à l'œuvre de Dieu. Et Dieu nous appelle à être disponibles, parce qu'il œuvre partout autour de nous. Des gens qui ont besoin de Dieu, ils sont partout. N'est-ce pas? Ils sont partout autour de nous. Il y a un autre exemple, celui de papa. Quand il est allé en Belgique pour acheter la voiture cet été, exemple très frappant. On vient de passer encore une semaine ou deux de moments forts et papa va acheter sa voiture en Belgique. Combien de personnes, papa, à qui tu as partagé la parole et tu as eu comme contact pendant un aller-retour en Belgique? Il a rencontré, je crois, quelqu'un dans le train. Deux dans le bus. Ouais, deux dans le bus. La jeune fille, la personne un peu plus âgée. Tu as parlé à la personne, à la secrétaire qui t'a réceptionné. Et après au patron. Ça fait 5 en 24 heures, hein, aller-retour, 5 contacts. Pourtant, le nombre de fois qu'il a fait des allers-retours à Paris, t'as eu peut-être un contact de temps en temps. Ouais, j'ai rencontré quelqu'un dans le train, super, une personne. Là, il en a rencontré 5. Papa, il est parti, les poches pleines de prospectus. Daniel, il me faut celui-là, hop, il est parti. Il était prêt, il était disponible. Et Dieu l'a utilisé. Parce qu'il voulait s'associer à l'œuvre de Dieu. Et Dieu est à l'œuvre partout. Ensuite, s'associer avec foi et action. On a vu qu'on s'associait par obéissance. Maintenant, j'aimerais vous parler de s'associer avec foi et action. Jésus a dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Pourquoi s'associer à l'œuvre de Dieu ? Et parce que c'est là que Dieu est. C'est là où notre Seigneur Jésus est. Pourquoi aller ailleurs ? L'œuvre de Dieu est là, Jésus est là. Associons-nous à lui. Parce que nous aimons Christ, parce que nous aimons son œuvre. C'est Dieu qui choisit le caractère de notre mission. Et nous devons nous associer à sa mission. Souvent, nous regardons à notre vie, notre volonté. La volonté de Dieu, elle est simple. Il y en a deux. Notre sanctification, notre relation avec lui, et la deuxième, les âmes perdues, que tout homme soit sauvé. Voilà la volonté de Dieu pour l'homme, pour l'humanité. Elle est simple. Souvent, on regarde trop compliqué la volonté de Dieu dans notre vie. C'est, on cherche à gauche, à droite, on cherche des excuses. J'arrive pas à trouver la volonté de Dieu, j'arrive pas à m'investir dans l'Église. Je trouve pas la volonté de Dieu pour moi dans l'Église. La volonté de Dieu est simple. Notre sanctification et que tout homme soit sauvé. On va voir maintenant l'œuvre de Philippe, comment Philippe s'est associé avec foi et action. On voit d'abord qu'il se leva et partit, acte 8, 27. Et ce qui est beau, c'est que tout de suite derrière, on a un point, tout de suite derrière, et voici l'Éthiopien. Philippe se lève par la foi, il part à Perpète au sud, il ne sait pas pourquoi. Mais il part par la foi, sachant que Dieu a préparé quelque chose pour lui. C'est simplement la confiance en Dieu. La conséquence, parce qu'il a cet acte de foi, qu'il agit, Dieu place une personne sur son chemin. C'est l'Esprit qui place. Lui agit par la foi, l'Esprit met la personne sur son chemin. Il revient dans le sud alors qu'il a été persécuté. Donc c'est vraiment un acte de foi. Ensuite, acte 8, 30, 31, Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Deuxième acte de foi, Philippe y voit, l'Esprit lui parle, il n'attend pas, il accourt, foi, par la foi, obéissance. Et qu'est-ce que fait Dieu ? Il permet que l'Éthiopien est en train de lire chapitre en Ésaïe. Ensuite, Philippe se rend disponible, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il n'est pas passif, il est actif. Il est attentif à ce qui se passe autour de lui. Il se rend disponible. Et dès qu'il a l'occasion, il dit tout simplement, comprends-tu ce que tu lis ? Il n'est pas en train de s'imposer à l'Éthiopien. Il est en train de lui dire, je suis là pour t'aider si tu as besoin. Et l'Éthiopien, qu'est-ce qu'il fait ? L'œuvre de Dieu, l'eunuque l'invite à se joindre à lui. Ce n'est pas lui qui est allé s'asseoir, c'est l'eunuque qui l'invite. À chaque fois, il avance par foi et l'Esprit ouvre les portes. Enfin, c'est l'eunuque qui s'adresse à Philippe et qui dit « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi ? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Et je me suis posé la question, pourquoi est-ce qu'il est écrit je ne l'ai pas mis sur le PowerPoint, Philippe, ouvrant la bouche, annonça la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Pourquoi ouvrant la bouche ? Quand on parle, on ouvre la bouche. Et je me suis dit tout simplement, c'est que jusque-là, Philippe n'avait pas ouvert la bouche. Il a écouté lire le passage, il a écouté le problème de l'Éthiopien, et quand l'Éthiopien s'est ouvert, il a ouvert la bouche. C'est Dieu à nouveau qui a ouvert les portes. Philippe n'est que disponible à l'écoute. Pourquoi est-ce qu'il obéit avec la foi ? Parce qu'il sait que Dieu a préparé quelque chose d'avance. Donc il ne fait que rentrer dans l'œuvre de Dieu. Le choix de Philippe est simple, agir avec foi, sachant que c'est l'Esprit de Dieu qui agit, qui ouvre les portes. On connaît bien le passage en Matthieu 28, 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné sur la terre, sur le ciel et sur la terre, à l'effet de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » On connaît parfaitement cet ordre. Ce qu'on oublie souvent, c'est le contexte dans lequel Dieu nous donne cet ordre. Jésus nous rappelle qu'il a tout pouvoir. Croyons-nous que Dieu, que Jésus a tout pouvoir ? Croyez-vous que Jésus a tout pouvoir ? Jésus nous demande simplement, nous donne un ordre, et donc nous demande d'obéir. À partir du moment où nous obéissons à cet ordre, qu'est-ce que dit Jésus ? Voici, je suis avec vous tous les jours. Il est avec nous tous les jours quand nous répondons favorablement à son ordre, quand nous lui obéissons. Et alors nous avons cette assurance, nous avons l'Esprit de Dieu. Il est frappant de voir dans les Écritures, dans le Nouveau Testament, que les apôtres, Paul, Barnabas, Étienne, Philippe, étaient tous décrits comme remplis de l'Esprit quand ils évangélisaient, quand ils annonçaient la parole. Même Jean-Baptiste, qui est un peu le précurseur de Jésus-Christ, est écrit qu'il était rempli de l'Esprit-Saint dès le sein de sa mère. C'était le premier à annoncer la venue de Jésus-Christ. Jésus-Christ, quand il a commencé son ministère, il était aussi rempli de l'Esprit. On voit la colombe qui vient lors de son baptême. Et en Actes 4, 31, on lit « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » Dieu nous demande de faire le pas de foi. Une fois que nous avons fait ce pas de foi, il nous remplit de cette assurance et de son Esprit Saint pour accomplir son œuvre. Mais c'est évident que si nous ne faisons pas le pas de foi, il ne va pas nous donner l'assurance, il ne va pas nous remplir son Esprit Saint. Trop souvent, on attend gentiment, passivement, qu'il nous remplisse son Esprit Saint pour ensuite aller agir, ensuite espérer avoir plus de foi. Ayons la foi, obéissance, et Dieu va nous remplir son Esprit, va nous donner cette assurance pour aller parler de lui et pour s'associer à son œuvre. Je parle beaucoup de la mission, d'annoncer la parole, mais c'est tout aussi valable pour les ministères dans l'Église. Souvent, on voit autour de nous des besoins dans l'Église. Au lieu de se dire « Ah tiens, Dieu m'a donné à cœur ce besoin, Dieu m'a montré que ce besoin existait », au lieu d'aller avec la foi, même si on ne se sent pas forcément plus compétent, et qu'après Dieu nous utilise, on cherche souvent à ce que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Faisons ce pas de foi et Dieu va nous utiliser derrière. On a vu d'abord que Dieu est à l'œuvre autour de nous. On a vu qu'il nous invite à s'associer à son œuvre. Maintenant, on va voir que cette association porte beaucoup de fruits. Je vais essayer d'aller plus vite parce que le temps passe. On lit. Que cette association est d'abord centrée sur la parole de Dieu. Je ne vais pas relire le texte. En Actes 8, 32 à 35, qu'est-ce qu'il fait ? Il lit le passage en Ésaïe. Et alors l'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi ? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Et alors Philippe ouvre la bouche et commençant par ce passage, lui annonce la bonne nouvelle de Jésus. Philippe s'adapte à son interlocuteur. L'eunuque est dans ce passage, Philippe commence à ce passage. Et pour cela, il faut être préparé. Chaque personne devant vous est différente, chaque interlocuteur est différent. Il faut avoir le cœur préparé, il faut connaître la parole de Dieu. Est-ce que vous connaissez suffisamment la parole de Dieu pour pouvoir réagir, répondre aux questions de ceux qui sont autour de vous ? Si on regarde le contexte de l'eunuque, il revenait de Jérusalem. Donc il avait dû rencontrer des sacrificateurs, des pharisiens, il avait dû rencontrer plein de gens. Et ces gens, à l'époque, sur ce passage donc, de l'agneau immolé, étaient tous divisés. Il y en a qui disaient que l'agneau correspondait à Israël, il y en a qui disaient que l'agneau correspondait à Ésaïe, qui a été tronçonné en deux, qui a été tranché en deux. Il y en a qui disaient que ça correspondait au Messie, mais alors ils n'étaient pas tous d'accord sur qui était le Messie. Et la différence entre Philippe et tous ces gens, c'est que Philippe détient la vérité. Il a l'Esprit de Dieu avec lui. Philippe, avec autorité, va expliquer la parole de Dieu parce qu'il la connaît, parce que l'Esprit lui a révélé ce qu'est la parole. John MacArthur a écrit « Tous les croyants devraient s'efforcer de bien connaître la parole de Dieu afin de pouvoir, eux aussi, répondre aux questions que les gens se posent et les conduire au Sauveur. Comme Pierre le dit, nous devons être toujours prêts à nous défendre avec douceur et respect devant quiconque nous demande raison de l'espérance qui est en nous. » Toute présentation efficace de l'Évangile doit reposer solidement sur l'Écriture. L'utilisation de témoignages personnels, d'histoires, de traités et d'autres outils ne peuvent pas remplacer l'Écriture, car seule l'Écriture est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Est-ce que nous croyons que la parole a autorité ? Est-ce que c'est elle qui va transformer les cœurs ? Si vous revenez en arrière, qui est-ce qui vous a changé ? Est-ce par la parole de Dieu ? Bien sûr, il y a le témoignage. On voit Jésus-Christ à travers les gens, ça nous donne envie. Mais ce qui nous transforme, c'est la parole de Dieu. Ensuite, une parole centrée sur Jésus-Christ. Il part du passage, et on voit ensuite Philippe ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Il connaît la parole de Dieu, mais aussi il connaît avant tout Jésus-Christ, sa personne, son œuvre. Et donc, toute chose doit toujours revenir à la personne de Jésus-Christ. C'est lui la parole incarnée, c'est lui la parole faite chair. Il est la révélation de Dieu pour l'homme. Et on connaît ce passage qui dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». C'est le seul moyen d'accéder au Père. Jésus-Christ est le seul moyen d'accéder au Père. Romains 10, 17, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Les témoignages, comme on a dit tout à l'heure, les traités, les anecdotes, les exemples qu'on peut donner, souvent on philosophie beaucoup sur qui est Dieu, sur la parole de Dieu, on essaie de s'adapter à la personne, et on oublie de revenir davantage à l'autorité de la parole, à l'autorité de Jésus-Christ. Ou sinon, on va parler de Jésus-Christ, mais on ne va pas dire qui il est vraiment, on ne va pas montrer ce qu'il a fait. C'est peut-être pour ça que les gens ne comprennent pas vraiment qui est Jésus-Christ autour de nous. Ils entendent parler de Jésus-Christ, mais ils ne voient pas vraiment qui c'est. Peut-être qu'ils ne croient pas parce qu'ils ne savent pas qui est Jésus-Christ. Revenons toujours à Jésus-Christ, à son œuvre, à qui il est réellement, pourquoi il est venu. Et enfin, cette association porte du fruit. On voit l'eunuque qui se tourne vers Dieu, qui fait le pas de foi, qui confesse le nom de Jésus, qui agit en se faisant baptiser. On ne le voit pas devant tous ses serviteurs. Il devait avoir tous les serviteurs, il devait avoir, je sais pas, une garde. Un surintendant de la reine d'Éthiopie ne se promène pas tout seul. Imaginez Philippe quand il a couru vers lui. Il fallait de la foi devant tous ces gens qui étaient peut-être autour de lui. J'ai le souvenir d'une BD où on voit l'Éthiopien tout seul avec quelqu'un qui fouette le cheval. Mais je ne pense pas que le ministre d'Éthiopie, comme ça, était seul. Donc il fallait ce pas de foi de Philippe. Et lui, à l'eunuque, il fallait le pas de foi de se faire baptiser devant tous ses serviteurs. Et on peut dire que l'œuvre de Dieu, la parole de Dieu, est rentrée en Éthiopie grâce à cet eunuque. Un ministre qui se fait baptiser devant tous ses serviteurs, quel témoignage dans son pays. Et ensuite, on voit aussi l'œuvre de Dieu dans Philippe, parce que Philippe, qu'est-ce qu'il fait après avoir ce miracle de conversion de l'Éthiopien ? Il est enlevé. Philippe vient vivre un miracle à travers l'Éthiopien, il vient de vivre un miracle enlevé. Ça m'a toujours frappé de voir que la Bible est très succincte. L'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque partit joyeux. Philippe est enlevé, qu'est-ce qu'il fait ? Il se retrouve à Azote. Philippe habitait Césarée, on le lit un peu plus tard dans Acte. Philippe habitait Césarée, donc il est à Azote, il remonte chez lui. Qu'est-ce que fait Philippe en remontant chez lui ? Il proclame la parole de Dieu partout où il est. Même s'il vient d'accomplir l'œuvre de Dieu, il pourrait dire « je suis un peu fatigué, je vais rentrer chez moi maintenant ». Non, il ne s'arrête pas. Il s'associe à l'œuvre de Dieu partout où il est. Charles Studd, champion de la foi, champion préféré de papa, a écrit, il parlait d'un jeune homme qui venait d'accepter Jésus dans son cœur. Il se releva, les yeux remplis de larmes, me serra les mains en disant « Je n'ai jamais fait une expérience semblable à celle-ci. » Et Charles Studd qui dit « Gloire soit rendue à Dieu. Vous pouvez vous présenter à quelle joie je suis allé à table. » Il est allé manger. J'étais gonflé à éclater. Ah, mes amis, ces âmes sont plus précieuses que des diamants. Et j'aimerais mieux en sauver une que d'être la reine d'Angleterre. Conclusion, pourquoi m'engager? Il nous a aimés le premier. Aimons-le en retour. Aimons-le en retour, aimons-le pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait. Associons-nous à l'œuvre de Dieu, parce que c'est là qu'il est. Et là où est son œuvre, là est Jésus. Parce que c'est sa volonté pour l'humanité. Et dans son œuvre, nous porterons beaucoup de fruits. En allant travailler autour de nous, là où il est, nous serons transformés en nous. Comment s'engager? Avec humilité, sans excuses, mais avec foi et action, sachant que c'est Dieu, que c'est le Saint-Esprit qui œuvre. Nous ne sommes que des instruments, et avec le meilleur de nous-mêmes. Posons-nous la question, quelle est l'œuvre de Dieu autour de nous? Quelle est l'œuvre de Dieu dans notre Église aujourd'hui? Où est l'œuvre de Dieu? Quelle est l'œuvre de Dieu dans la ville de Toulouse? Quelle est l'œuvre de Dieu dans notre pays de la France? Associons-nous à l'œuvre de Dieu avec foi et action. Et alors il y a cette promesse formidable en Matthieu 25-21. Ça serait une des plus grandes joies en arrivant au ciel que Dieu nous donne cette phrase. C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître.